Alors voilà le cheminement que je vous propose. Hein. On va faire un peu un retour sur des basiques de connaissances, hein. Si de l'eau, molécule, la vie dans l'eau, voilà. Et à partir de la vie dans l'eau, ben, je vais vous expliquer un peu en quoi les méthodes actuelles commencent, disons, à évoluer vers de la prise en compte de ce qu'on appelle l'écologie fonctionnelle, parce qu'on vient de loin. Hein. On est sur des méthodes qui datent un peu maintenant, hein. Ça fait 40 ans que ça existe, donc là, il y a une impulsion récente, là, en 2000, je vais vous expliquer très brièvement pourquoi. Donc au niveau mondial, voilà un peu comment ça ressemble, comment on présente habituellement hein, les stocks en eau sur la planète. Hein. Donc vous voyez que les océans, c'est une très très grosse part hein, de l'eau mondiale. Très rapidement, sur les fromages de droite, vous voyez, la part de l'eau douce sur cette planète est vraiment très très faible, hein, et la part des eaux superficielles est encore plus. Donc, vous vous rendez compte de la, entre guillemets, de la fragilité relative un peu de cette ressource par rapport à nos besoins, hein, nos besoins humains qui sont énormes. Hein, l'eau, c'est vraiment le moteur de la vie. Hein, réfléchissez-y dans toutes vos actions de journée. Et vous comprendrez qu'effectivement, à partir de là, si on ne s'intéresse pas à ce problème de la ressource en eau et de sa qualité, ben on peut courir de grosses catastrophes. Alors, une autre dimension qu'il faut bien comprendre, c'est le temps de renouvellement un peu du système. Hein. C'est-à-dire que l'eau sur la planète, elle est finie. Hein, donc, il y a des cycles très, très complexes. Hein. Vous voyez que les océans ont un temps de renouvellement de 2500 ans, à peu près, pour vous donner l'ordre de grandeur, alors que dans les rivières, en gros, le temps est de l'ordre de 18 jours. Alors, quand on s'intéresse aux vivants, ben, le temps est encore bien plus court, hein, puisque la moyenne dans ce qu'on appelle la biosphère, c'est nous, hein, la biosphère, on fait partie de la biosphère, on fait partie des êtres vivants qu'il y a sur cette planète, le temps de renouvellement, c'est quelques heures. Donc il faut bien mesurer cette réalité, c'est-à-dire qu'on a vraiment un besoin quotidien d'eau et de qualité, sinon on va pas bien. Alors l'autre dimension, c'est, vous avez certainement peut-être des cours en hydrogéole, hein, vous voyez que les temps de renouvellement de certaines nappes sont très très longs, hein, vous voyez par exemple de l'Albien sous Paris, c'est 30 000 ans. Donc dès lors qu'on commence à exploiter ce genre de ressources, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée un peu de son volume global, il faut avoir une idée des actes qu'on fait pour ne pas la polluer, pour essayer de la régénérer, de l'entretenir, de ne prendre que ce qui peut être utile et ne pas la gaspiller. Sur Terre, on dit classiquement qu'il y a quatre grands réservoirs. Hein, les mers océans, les eaux continentales, comme les superficielles souterraines, l'atmosphère et la biosphère. Alors, le moteur de tout ça, il faut bien penser que c'est ce cycle de l'eau qui est alimenté sans arrêt, il est dû au soleil. C'est le soleil qui l'alimente sans arrêt. C'est-à-dire que c'est l'énergie thermique qui nous arrive de cette étoile qui, en rayonnant, active le mouvement aérien, fait de l'évaporation et fait du vent. Enfin, il y a tout un cycle qui est permanent et qui est essentiellement dû à cette énergie. Alors, il existe bien sûr des cycles de l'eau très très différents. Il y en a un qui est figuré tout simplement, vous avez peut-être déjà vu voir ça par curiosité, hein. Le cycle de l'eau potable, hein, bon, c'est un classique, hein, entre pompage, le stockage, le traitement, le retraitement à la sortie et l'épuration pour le rejeter dans les cours d'eau. Mais il y en a d'autres, c'est, hein, vous voyez peut-être pas en bas au niveau de la table, mais c'est tout ce qui est l'eau industrielle, l'eau agricole, et bien sûr, qui vous concerne, l'eau et l'eau ludique, l'eau utilisée par les gens pour se baigner, pour faire des tas de choses. Donc, suivante. Et cette eau, elle est effectivement en renouvellement permanent sur la planète, mais aussi, elle est en train un peu de changer dans ses caractéristiques. Alors, ça, c'est simplement l'image de ce qu'on appelle l'anomalie thermique hein, qui existe depuis le début des années 80, c'est-à-dire que c'est la température moyenne de l'air qui monte sur la Terre. On est, l'actualité récente nous montre que hein, l'automne de 2010 a été pas mal aussi en exception. Donc, les conséquences qu'il y a sur ces eaux ne sont pas encore spectaculaires. Hein, on commence à parler de submersion parce que, effectivement, les glaciers fondent, l'eau plus chaude, elle se dilate un peu, enfin bref, il y a tout ça, mais ce qui se passe au niveau biologique est assez phénoménal. Bon, ça passe inaperçu, parce que ça ne nous met pas en péril en ce moment, ce n'est pas à la connaissance du grand public. Il y a énormément de réponses biologiques qui se font suite à ces changements de température. Et ces changements de température, ce n'est pas simplement la température qui monte l'été ou l'hiver, c'est des allongements de temps plus chaud dans l'année. C'est-à-dire que ce n'est pas spectaculaire, l'humain ne le ressent pas. C'est par exemple des hivers plus courts, des printemps plus chauds, des printemps plus longs, des choses comme ça. Et c'est ça qui fait bouger le biologique, puisque, comme vous avez remarqué sur la planète, hein, il y a un rythme jour-nuit, et ça, avec des saisons. Et ça, c'est vraiment le moteur principal de la vie. Alors, un peu de basique. La molécule d'eau, trois formes de représentation. La première est classique, la deuxième est classique, la plus rigolote, c'est pas un test psychologique, hein. C'est simplement un modèle mathématique de présence des électrons autour de noyaux d'oxygène. Et les propriétés de cette molécule est effectivement fabuleuse. Hein. C'est l'une des molécules qui a trois états simultanés sur Terre, hein, qui est gaz, liquide et solide. C'est une molécule qui est polaire et qui a la propriété, en gros, de dissoudre énormément de composés. Donc ça, c'est vraiment une particularité de cette molécule sur la Terre. Alors, les paramètres qui sont moins connus, hein, ça n'a pas d'application en eau courante, mais dans les eaux, disons, stagnantes, en a, il faut comprendre un peu comment ça marche, c'est la densité de l'eau. La densité de l'eau, effectivement, elle est, comme c'est marqué, 715 fois plus celle de l'air, plus grande que celle de l'air, mais elle est aussi maximale à 4 degrés. C'est-à-dire qu'une eau qui passe à 4 degrés est toujours plus lourde que les autres. Et ça, ça a des conséquences dans certains grands systèmes stagnants où, effectivement, les eaux qui ont 4 degrés, naturellement, elles descendent. Elles vont sur le fond des lacs, elles vont dans les grandes profondeurs. Alors ça, c'est un phénomène qui est moins important pour les eaux courantes, mais c'est à connaître parce que cette propriété de la densité... Elle agit énormément sur un certain nombre d'organismes. La suivante. Alors, la chaleur spécifique, c'est aussi assez un critère intéressant, c'est-à-dire que c'est l'une des plus élevées sur l'atmosphère. Hein, c'est assez étonnant. Hein, la moyenne de l'atmosphère, c'est 0,2. Et c'est une propriété, en fait, qui régule un peu le climat terrestre. C'est-à-dire que les calories accumulées par ces masses d'eau agissent un peu comme des gros radiateurs qui tamponnent les fluctuations très violentes, les fluctuations thermiques. Alors, il y a un petit phénomène que tout le monde connaît, hein, c'est celui de la prise en glace, c'est-à-dire que quand l'eau gèle, simplement, le volume occupé par la glace est plus important que l'eau liquide, et tout simplement, ça, c'est dû aux liaisons hydrogène d'avant que je vous ai montré. C'est l'agencement des molécules qui ne se fait pas de la même façon. Dans l'eau liquide, les molécules sont agencées de façon un peu tordue et oblique, alors que dans la glace, le réseau est presque tétrahédrique et sont droites. Donc le fait d'être beaucoup plus droit fait que le volume est plus grand. C'est tout simple, mais c'est l'explication qui peut être au niveau physique. Alors, un autre phénomène, c'est la tension de surface. Alors cette tension est la plus forte de tous les liquides, à l'exception du mercure. Hein, on ne s'en rend pas compte. Vous voyez sur la droite, il y a des images, bon, ceux qui vont à la pêche ont déjà regardé des mares, hein, c'est des organismes qu'on dit aquatiques, mais en fait qui vivent à la surface de l'eau, qui en quelque sorte planent hein, un peu comme des hydroptères sur la surface. Et la tension de l'eau est telle qu'ils ne la traversent pas, c'est-à-dire qu'ils utilisent simplement, hein, au moyen de dispositifs de soie, hydrofuges, des choses comme ça, bah, ils marchent un peu comme nous on marche sur la Terre, hein, ils utilisent le système. Alors cette interface est vraiment très 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 puissante parce que à l'inverse certains petits organismes dans les lacs souvent ça arrive souvent comme des petits cladocères, des choses comme ça qui sont envoyés à l'extérieur du lac par des vagues par exemple par le vent, mais souvent ils n'arrivent pas à rentrer dans la masse d'eau simplement parce qu'ils n'arrivent pas à traverser le miroir. La tension superficielle est si forte qu'ils n'arrivent pas à traverser cette interface RO. Alors, une autre propriété, bien sûr, c'est la transparence. Hein, vous voyez un peu au côté de la sorgue, là, vous voyez que l'eau est relativement claire. Eh bien, la clarté de l'eau est aussi fondamentale pour un certain nombre d'équilibres biologiques, hein, puisque c'est là que pénètrent les rayons lumineux, c'est là que, disons, un certain nombre d'organismes végétaux vont pouvoir pratiquer la photosynthèse. Donc, cette transparence, elle autorise aussi dans certaines mesures un certain réchauffement des eaux, voire même des substrats, ce qu'on appelle les substrats, le fond des rivières, quand l'eau est très claire. Souvent, l'échauffement des cours d'eau très clairs se fait plus par le substrat que par l'eau elle-même. Hein, c'est le corps noir par exemple, des galets, de la vase ou du chauffage qui prend la chaleur et qui la restitue à l'eau progressivement au fil de la journée. On passe un peu au volet aquatique, au volet de la biologie. Alors, hein, c'est la Terre a une longue histoire, vous le savez tous. Et la vie s'est organisée depuis un certain nombre de milliards d'années. Actuellement, on a un taux d'oxygène dans l'air qui est de 21%. Hein, c'est relativement stable, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Hein, certains ont reconstitué un peu l'évolution de l'atmosphère depuis de ces grands changements. Et donc, la particularité qu'ont les organismes sur Terre, c'est bien sûr de fonctionner, j'allais dire, à l'oxygène. La plupart, les grosses biomasses fonctionnent à l'oxygène. Mais dans l'eau, c'est encore plus compliqué. On va voir pourquoi. Parce qu'il faut arriver à extraire l'oxygène dissous. Hein, si on vous met dans l'eau, on vous met les poumons remplis d'eau, vous vous noyez. Donc c'est parce que nous, on n'a pas la capacité à tirer suffisamment d'oxygène par nos petites alvéoles, alors que certains organismes y arrivent très facilement. Ensuite, au niveau des propriétés, on a vu que effectivement la densité de l'eau était vraiment très très plus grande que l'air. Hein. Bon, tout le monde a plongé ou a sauté une fois dans sa vie, j'espère, dans l'eau. Hein. Quand, plus on est en saute de haut, plus on prend une claque. Donc c'est le fait qu'effectivement la résistance au déplacement est assez phénoménale et que vivre dans un milieu aquatique liquide comme ça, ça nécessite un certain nombre d'adaptations anatomiques et aussi de puissance, à se déplacer, à attraper facilement sa nourriture, à regagner son support. Alors, les particularités de l'eau sont effectivement très différentes de celles de l'air. On a vu que l'eau était déjà beaucoup plus dense. Mais ce qui fait, en fait, l'énorme différence, c'est ça. C'est la vitesse de diffusion gazeuse. C'est-à-dire que dans l'eau, l'oxygène diffuse 600 000 fois moins vite que dans l'air. Et c'est pour ça que nous, entre autres, on se noie. C'est-à-dire que derrière ça, il faut que les organismes qui vivent soit aient la possibilité de renouveler l'eau autour de leur corps, soit ils ont une possibilité de respirer, par exemple, à travers tout le corps, comme si certains petits organismes, ils respirent en fait à travers une espèce de, on appelle ça la cuticule, et ils ont la possibilité de vivre comme ça. Alors le concept qui vient derrière, il n'est pas facile à comprendre, mais enfin c'est un peu ce qui se passe dans la réalité des eaux courantes, c'est la notion de disponibilité. C'est-à-dire que quand, dans la journée, par exemple, le taux d'oxygène peut changer dans l'eau pour des tas de raisons, une pollution, l'ensoleillement, la production végétale, la nuit qui arrive, ben les organismes souvent arrivent à compenser, en fonction un peu de leurs besoins, les variations de taux d'oxygène en se déplaçant. C'est-à-dire qu'en gros, quand il n'y a pas assez d'oxygène, ils vont aller dans des courants un peu plus vifs, de façon à ce que l'eau autour de leur corps se renouvelle plus vite. Hein. Inversement, les poissons que vous connaissez, la truite, ben, elle n'a pas besoin de ça. Elle a des branchies qui fait un circuit d'eau au travers de la bouche hein, et qui peut effectivement accélérer sa cadence de respiration au fur et à mesure de ses besoins. Donc c'est un peu le même principe, elle n'a pas besoin de se déplacer, mais elle accélère le rythme. Et enfin, la saturation, donc c'est la conséquence effectivement première de la diffusion gazeuse, ben, tout simplement que quand il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau, c'est parfois dû à une activité des plantes, hein, la photosynthèse qui produit l'oxygène. Et si les plantes sont très très importantes comme dans la sorgue, là, ben il peut y avoir ce qu'on appelle une sursaturation d'oxygène. C'est-à-dire que la plante a besoin, produit de l'oxygène sans régulation, en fait, tant qu'il y a de la lumière, elle produit. Mais comme la vitesse de diffusion est beaucoup plus faible, ben l'oxygène se stocke progressivement dans l'eau et ne diffuse que plus lentement. C'est donné qu'au cours de la nuit, que souvent, que ce stock d'oxygène, on peut atteindre 200%, 300%, hein, dans les rivières, ce qu'on appelle très riches en matière organique, on peut atteindre 300% de saturation dans la journée. La suivante. Et enfin, la poussée d'Archimède, hein, comme l'eau est un fluide presque incompressible, mais il n'est pas totalement, mais enfin, on ne le détecte pas la nuit, c'est effectivement une des propriétés qui fait que les cours d'eau sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que l'eau qui se déplace, en fait, elle frotte. Hein, c'est ce qu'on appelle la force tractrice. C'est-à-dire qu'une eau qui bouge sur un support, elle tire en fait le support, elle le pousse, ce qu'on appelle l'érosion. Hein, c'est pour ça que les sédiments bougent dans les rivières quand la vitesse augmente, c'est pour ça que les berges tombent, enfin, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de propriétés physiques liées à cette force tractrice qui sont assez importantes. Et cette force tractrice, elle peut transporter aussi bien de l'inerte comme du vivant, hein, c'est-à-dire qu'elle est capable aussi de transporter des organismes. Alors la respiration, j'en ai déjà dit un peu quelques mots. Bon, il y a deux grands types. Hein. Quand on est petit, souvent on n'a pas besoin de dispositif. Quand on est petit, c'est-à-dire qu'on fait 1 ou 2 mm ou 3 mm, on n'a pas besoin de dispositif pour respirer. On sait respirer à travers sa cuticule, enfin son corps. Et quand on est plus gros, en gros, il faut des dispositifs. Dès lors qu'on commence à atteindre le centimètre et au-delà, ben là, il y a des dispositifs, des branchies, hein, des odonates qui aspirent l'eau, qui ont des branchies internes, il y a des poissons qui ont des branchies, etc. Enfin, bref, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont nécessaires. Dès lors que l'organisme grossit, on a besoin de dispositifs pour extraire l'oxygène. Et les déplacements, bon, ben alors là, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'organismes utilisent la propriété des eaux courantes pour se déplacer. C'est ce qu'on appelle le déplacement actif. Et inversement, il y a une part des déplacements qui sont dits aléatoires, qui sont passifs. C'est un peu comme le vent érode, fait voyager le pollen. Bah, dans l'eau, vous avez une fraction du peuplement des organismes présents qui, aléatoirement, s'en va au fil de l'eau de temps en temps. Alors le phénomène, il est lié bien sûr à la puissance de l'écoulement, mais bien sûr, vous imaginez que quand il y a des grosses crues, ben là, ils n'ont souvent pas le choix. Hein, c'est-à-dire qu'ils partent, tout le monde part en même temps, avec le substrat, avec les arbres, c'est ce qu'on appelle la dérive catastrophique. On a mis un mot derrière. Mais sachez qu'il existe un phénomène qui est actif, qu'on appelle la dérive active, qui là est comportemental, c'est des organismes qui ne bougent par exemple qu'à la tombée de la nuit, que la nuit, qui ne bougent pas le jour, qui ne bougent à la fin de leur cycle biologique, pour des tas de raisons, pour des choix d'habitat, pour aller éclore. Enfin, il y a tout un phénomène complexe qui est absolument assez mal connu, puis qui n'est pas utilisé en tant que tel pour décrire un fonctionnement aquatique actuellement. On y viendra peut-être un jour, mais c'est un phénomène qui est très très important pour la recolonisation des cours d'eau. Et enfin, la nutrition. Ben, la nutrition, c'est le quotidien de tout le monde. Hein. Nous comme eux, ils sont obligés de manger. Donc, il y a pratiquement tous les modes d'alimentation dans les cours d'eau. On peut trouver à la fois des organismes qui mangent sur du vivant végétal, du vivant animal, d'autres qui mangent la matière organique morte, hein, végétale ou animale. Enfin, il y a vraiment tout. Et puis après, il y a la taille de l'animal qui fait que ce qu'on appelle, on est consommateur primaire quand on est petit, c'est-à-dire qu'on ne sait manger que des particules, donc on n'a pas beaucoup la capacité d'attraper des proies. Puis dès lors qu'on vient un peu gros, ben on peut commencer à avoir un régime qui change. Et après, il y a vraiment les carnassiers types, hein, à la fois les poissons, à la fois les gros invertébrés, qui eux se nourrissent de matières organiques vivantes. Donc ce sont des chasseurs, il y en a qui chassent à court, il y en a qui chassent à l'affût. Enfin, bref, il y a plein de modalités comportementales. En bas à droite, vous avez la construction d'un tricoptère, ça s'appelle un hydropsyché. Ça, c'est un organisme qui construit une sorte de nasse et qui se nourrit à l'intérieur de ça. Le courant, enfin, l'ouverture est face au courant, et après, lui, il récolte un peu comme on récolterait dans un tamis des particules et des organismes. Voilà. Alors, le cycle de l'oxygène, on en a parlé très bien, très brièvement. Bon, c'est ce qui fait marcher un peu le moteur terrestre, hein, je disais. Donc, ce cycle de l'oxygène, il est en gros boosté par la photosynthèse. Hein. C'est la réaction chimique qui est en dessous. Vous l'avez peut-être vu encore ou pas encore, j'en sais rien. Hein. Mais toujours est-il que c'est le processus par lequel, effectivement, la lumière transforme du carbone et de l'eau en composés organiques. Hein. Donc il y a une production à la fois de composés organiques, d'oxygène dissous et d'un peu d'eau dans la réaction. Alors la photosynthèse, elle peut se faire par les plantes, les algues, les bactéries. Enfin, il y a énormément de végétaux qui sont capables de faire la photosynthèse, et même certains protistes qui sont à la marge entre le végétal et l'animal. Bon, il y a aussi des productions des organismes qui ne produisent pas d'oxygène, mais c'est pour mémoire, hein, c'est pour l'anecdote, et ils n'utilisent pas le carbone comme source de nourriture. Alors, la vie dans l'eau. Alors là, c'est un schéma tout simple hein, pour vous montrer que les majeurs sont organisés selon différents types. Alors j'ai mis en haut à droite système dissipatif, système accumulatif, et c'est pour bien montrer ce qu'on appelle dans le jargon le lotique et le nantique. En gros, vous imaginez qu'un torrent de montagne, il n'a pas beaucoup la capacité à stocker quelque chose. C'est avant tout un vecteur de transfert, hein. Il fait descendre des galets, il fait descendre des organismes, il fait descendre des tas de choses. Inversement, un lac, c'est plutôt un décanteur, hein. C'est un piège à sédiments, c'est un piège à matière morte. Donc, tout est envisageable dans la combinaison entre le lotique et le nantique, et on peut effectivement, la suivante, on peut dire que les cours d'eau appartiennent plutôt à ce type à droite, c'est-à-dire que on y trouve à la fois des eaux rapides, des cascades, des trucs ça, puis on y trouve des systèmes mixtes qui commencent à être étudiés à l'heure actuelle, c'est-à-dire on a des systèmes temporaires. Bon, vous êtes peut-être pas familier ici, mais disons autour de la Méditerranée et ailleurs dans les pays secs, on a des cours d'eau qui sont naturellement temporaires. Donc ces cours d'eau ont la propriété de passer par deux phases. Une phase lotique, quand ils sont en eau, et souvent, au tarissement, voire à la remise en eau, ils ont une phase plutôt lentique. Et donc, c'est des systèmes qui sont mixtes dans le sens où ils sont capables d'accueillir deux types de faune dans un cycle annuel. Alors, les cours d'eau, comment on les caractérise? Alors, il y a une définition juridique qui existe sur Internet, mais j'ai pas pu la repérer, parce que d'un point de vue juridique, c'est pas facile de définir un cours d'eau. Mais enfin, pour la connaissance, disons, un peu classique, on reconnaît en gros 5 caractères à ces systèmes. Hein, ils ont des flux presque lumineux et directionnels, c'est-à-dire en gros, l'eau suit la ligne de plus grande pente, hein, elle descend avec la gravité terrestre, hein, parfois elle s'enfonce dans le sol. C'est des systèmes qui ont un changement physique continu, même si vous avez l'impression que le tracé est toujours un peu le même, ces systèmes-là, de manière intersaisonnière, ils sont tout le temps en train de se renouveler. Et c'est une des propriétés qui les différencie très fortement des autres systèmes terrestres. Ils sont à un haut degré d'hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire que dans 10 mètres, 100 mètres de cours d'eau, on va rencontrer vraiment énormément de variétés de ce qu'on appelle les supports, les habitats, les combinaisons, écoulements, supports, qui forment toute la richesse d'accueil et d'habitat des organismes aquatiques. Et enfin, la variabilité entre systèmes est énorme. Elle est énorme en taille, hein, on va le voir après, mais aussi elle est énorme dans les modes de fonctionnement selon les climats. Hein. En cours d'eau normand, on ne fonctionne pas comme dans un oued, j'allais dire, algérien, et la sorgue ne fonctionne pas comme la durance dans les Hautes-Alpes. Voilà. Et enfin, derrière tout ça, la conséquence de tout ça, c'est qu'il existe vraiment ce qu'on appelle un biote, c'est un ensemble d'organismes vivants, qui est spécialisé pour subir ces conditions de flux, de liquide et de solide. Alors l'organisation spatiale classique qu'on connaît des cours d'eau, c'est celle-là, hein, une zone de production dite d'alluvion, qui transite progressivement vers l'aval. Et l'interaction, en gros, majeure qui caractérise ce type de réseau, c'est celle qui se produit entre l'hydrologie, en gros, pluviométrie, hydrologie, hein, c'est un peu la même chose. C'est la façon dont l'eau arrive sur le sol, elle se rassemble dans les talvegs et elle va travailler la géologie locale. Alors parfois, ça commence par les sols, mais aussi, ça peut commencer par aussi les terrains beaucoup plus profonds sous le sol. Et ça donne un réseau hydrographique avec ce qu'on appelle des composantes hydromorphologiques. Hein. L'hydromorphologie, en gros, c'est un peu la science des formes, pour simplifier. C'est un champ complet qui est en train de voir le jour, parce qu'on a maintenant compris que pour caractériser un système, il ne fallait pas simplement y voir des animaux et essayer de les qualifier du système par là, mais il fallait aussi y voir ce qu'on appelle le contenant, c'est-à-dire la forme du contenant, des boîtes qui accueille ces bêtes, et c'est assez capital pour un certain nombre de paramètres biologiques. Le système d'eau courante, alors en fait, pour résumer, c'est un espace de variation, c'est-à-dire que dans un fonctionnement naturel, vous avez un certain nombre de contraintes qui sont parfois extrêmes, hein, vous en avez des exemples récents, c'est-à-dire qu'il y a des crues, il y a des sécheresses, hein, et ce qui fait le caractère d'un système, en fait, C'est tout cet assemblage, hein, sur la droite, vous avez quatre photos prises au même endroit, là, d'un cours d'eau provençal. En fait, c'est la fréquence de ces événements et la répétition de ces phases au travers des années qui forgent un peu le caractère du système. Et ce caractère du système, on le retrouve après dans ce qu'on appelle les types biologiques qui sont adaptés pour vivre dans de telles conditions. Elles ont des tas d'exigences, hein, ça peut être des exigences thermiques, des exigences hydrodynamiques, mais aussi des exigences de nourriture. Donc il y a vraiment une relation très étroite entre la variabilité du physique, hein, la façon dont tout ça se constitue au travers des cycles hydrologiques, et la réalité biologique derrière. Alors là, on va passer un peu sur le domaine de la bioindication et de l'évaluation écologique. Alors, pour vous faire comprendre un peu la suivante tout de suite, ouais. Pour faire comprendre un peu l'analogie, c'est un peu pourquoi on s'intéresse maintenant à ce genre de milieu, qu'on essaye de les qualifier, bah, tout simplement parce que c'est un peu l'analogie avec le diagnostic médical. C'est-à-dire que les constats d'état de ces écosystèmes nous renseignent, nous, sur nos pratiques, nos façons d'aller exploiter l'environnement, les ressources pour vivre, la ressource en eau, bien sûr. Et c'est le meilleur moyen pour comprendre un peu, entre guillemets, l'économie écologique qu'on peut faire au travers de nos activités pour aller vers disons, des modes de vie un peu plus respectueux des ressources qu'on exploite. Alors, il y a des obligations légales maintenant, en vitesse, hein, je ne sais pas si on vous en a parlé. Bon, il y a la directive cadre européenne qui a boosté un peu le système depuis l'année 2000. Et puis il y a la loi sur l'eau et les milieux aquatiques depuis 2006 qui a remis un cran un peu au niveau d'un certain nombre d'exigences au niveau des débits en rivière. Alors les dispositifs touchent absolument tous les milieux. Hein. La directive 4 sur l'eau, il y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus, surtout les estuaires, les cours d'eau, les lacs, les corps marins. Voilà. Et les besoins sont énormes dans le sens où... comme c'est une directive européenne, on a un besoin de travailler un peu tous de la même façon en Europe. C'est-à-dire que un peu les trois principes là, c'est-à-dire il faut disposer de repères pour évaluer des écarts à des états, disons normaux, ce qu'on appelle, on verra ensuite le bon état écologique. On a nécessité de régionaliser les informations et les repères, puisqu'on n'a pas les mêmes organismes qui vivent en Finlande ou dans le sud de la France, donc il faut travailler. Régionalisation, il faut travailler le fait que certains assemblages d'espèces ne sont pas les mêmes en Normandie ou dans les Pyrénées, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis après, on a une nécessité, sur laquelle je n'insiste pas plus, c'est de normaliser les expressions sur lesquelles on arrive. Alors les challenges, c'est surtout de faire la part à la variabilité naturelle et celle de l'homme, de décrypter les tendances, de statuer sur les objectifs de gestion, parce que là, il y a vraiment des progrès à faire, parce que on est maintenant confronté à des conflits d'usage, hein, bien sûr, très forts. Et puis, les demandes très fortes actuellement, ce sont de prévoir effectivement les effets des actions, c'est-à-dire que non seulement il faut savoir les évaluer a posteriori, mais de plus en plus, les gens demandent effectivement, si j'investis tant d'euros, ce à quoi il faut s'attendre une fois l'action faite. Alors, la notion de site de référence, on l'a tournée, il y avait deux options au niveau de l'Europe, on l'a tournée en France par un moyen très simple, c'est-à-dire qu'on a défini ce qu'on appelle des sites de référence. Alors, ça a été des experts qui ont travaillé sur les cahiers des charges au niveau des situations étudiées. Et maintenant, on dispose d'une base de ce qu'on appelle la typologie régionale. Vous avez sur la droite une carte qu'on appelle les hydro-éco-régions. C'est une carte qui combine simplement des paramètres comme la végétation, le climat, l'orographie, la géologie, et qui a défini des ensembles un peu statistiquement homogènes. Voilà. Et à l'intérieur de ces organisations, il y en a d'autres, hein, il y a des échelles du PIB, et il y a après ce qu'on appelle les MASO, et tout ça est référencé avec des indicateurs biologiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un indicateur biologique? Ben, la bioindication, c'est simplement le fait d'utiliser... En gros, la mémoire des organismes vivants qui vivent dans le système. Vous avez ici un schéma qui représente tout simplement le fait que dans les variétés d'organismes qui existent sur la planète, y compris dans l'eau, bah, vous avez des bactéries, hein, des plantes, des invertébrés, des poissons, et ainsi de suite. Donc, et tous ces organismes, ils ont des espaces-temps, des durées de vie différentes. Hein, la bactérie, elle se reproduit peut-être tous les heures, voire plus. Hein, alors qu'un poisson ou un saumon, par exemple, ça met quelques années avant de pouvoir se reproduire. Donc l'esturgeon met 15 ans, par exemple, 30 ans. Certaines anguilles australiennes mettent 50 ans avant de se reproduire. Donc il y a une intégration au cours du cycle vital d'un certain nombre de paramètres que l'organisme utilise. Et donc à partir de ça, eh ben, on sait à l'inverse extraire un certain nombre d'informations et définir des méthodes pour qualifier des milieux. Alors, une règle, c'est qu'en eau courante, plus les contraintes physiques sont fortes, plus les interactions biologiques sont faibles. C'est pratiquement une règle générale, c'est-à-dire que dans les torrents, ben, il y a très peu de compétition entre les organismes parce que, ils sont d'abord, j'allais dire, occupés à se défendre un peu contre l'environnement avant de penser à se manger entre eux. Alors, le bio-indicateur, tel qu'il est défini dans le jargon sur lequel on s'accorde un peu maintenant, c'est plutôt une échelle, disons, de l'individu, des populations, des peuplements, qui renseigne sur un certain nombre de caractéristiques écologiques. Donc ça, c'est un schéma que je vous passe en vitesse, mais enfin, en gros, dans le bio-indicateur, on s'intéresse souvent, généralement, aux résultats, alors que dans la suivante, le biomarqueur, lui, c'est plutôt un paramètre biochimique, hein, cellulaire, physiologique, comportemental, qui peut être mesuré sur des tissus, à l'intérieur des organismes. Et là, effectivement, sur des biomarqueurs, souvent, on a des réponses un peu plus précoces au niveau des altérations de l'environnement qui sont capables d'être détectées assez facilement. Par contre, on ne connaît souvent pas la suite, c'est-à-dire est-ce que la réaction du biomarqueur va s'accompagner aussi d'un transfert au bio-indicateur. La suivante. Alors, c'est ce qui résume ce schéma, c'est-à-dire que les biomarqueurs sont plutôt effectivement intéressés par tout un volet infra-individu. Ils sont assez performants sur une échelle relativement courte, hein, jours, semaines, mois, alors que tous les bio-indicateurs, eux, sont beaucoup plus intégrateurs, c'est-à-dire que leur sensibilité, elle s'évalue plutôt à des échelles de l'année et que les uns permettent donc de gagner en pertinence écologique alors que les autres gagnent en pertinence fonctionnelle. En gros, c'est un peu ça le message que restitue ce schéma. Alors, quels sont-ils? Ben, en France, on en est là, c'est-à-dire qu'il y a des normes derrière tout ça. Face à la suivante. C'est les diatomées, c'est l'indice biologique diatomique. Hein, le macrophyte, c'est l'indice biologique macrophyte en rivière. L'ITR, c'est l'indice poisson en rivière. Et puis les macro-invertébrés, voilà, qui sont en train d'évoluer actuellement. Il y a une méthode qui est en train de bouger. Vous connaissez peut-être déjà l'IVGM, pour ceux qui ont feuilleté ou fait des exercices. Donc la suivante, c'est la plus grosse évolution qui est en train de se faire. Alors, je prends simplement ce cas pour vous montrer d'où on vient. Dans les années 60, on avait un tableau qui permettait comme ça de qualifier les qualités d'eau. C'est-à-dire qu'une entrée sur laquelle était organisée en gros la sensibilité à la pollution organique. Ici, vous avez les sensibles, ici les moins sensibles. Ici, ce qu'on appelle la variété des organismes qu'on trouve dans la flotte. Et au croisement des deux, on avait une note. Hein. À l'époque, c'était entre 0 et 2. La suivante. On est passé dans les années 90 à ce qu'on appelle bon, l'IVGN. Donc l'IVGN était un peu plus sophistiqué dans le sens de la standardisation de la méthode utilisée 8 habitats, c'est-à-dire dans les cours d'eau. Donc c'était en gros que au travers la France, on ait un peu tous le même protocole et qu'on puisse avoir une idée un peu de la qualité des systèmes. Alors l'inconvénient en IBGN, c'est qu'effectivement, vous voyez par exemple, si vous regardez la diagonale des 15, hein, ici vous avez la variété des organismes et ici la sensibilité un peu à la pollution, ben, elle revêt en fait des situations très très diverses. Hein, donc on ne peut pas raisonner sur la note dans l'absolu. Il faut aller l'interpréter au travers de la note phonistique, il faut aller l'interpréter au travers d'un certain nombre de paramètres qui sont un peu plus subtils que simplement l'équation, disons, mathématique qui permet très simplement d'aller trouver la note. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, c'est que l'arrivée de la directive cadre européenne en 2000 a imposé un certain nombre d'évolutions. Il fallait que, un, la méthode soit représentative des systèmes sur lesquels on échantillonne. Il fallait que la méthode soit discriminante sur les grands types de pollution, c'est-à-dire qu'on puisse permettre d'avoir un diagnostic relativement fiable, de dire là c'est une pollution chimique, là c'est une pollution de type hydrologique, là c'est une pollution de type thermique, enfin, et ainsi de suite. Et il fallait en plus, comme c'est l'Europe qui dit, qui a sorti ça, il fallait que la méthode permette effectivement la comparaison interpays, quoi, international. Donc, on a fait évoluer le système par un certain nombre de normes. Il y en a une troisième qui va sortir. Donc, on a changé la base d'échantillonnage. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je passe. On passe à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on utilise maintenant de plus en plus? C'est ce qu'on appelle les traits écologiques et les traits biologiques. C'est le fait, tout simplement, d'aller regarder l'individu, non pas au travers de son identité. Hein, c'est plus Bergson de mon qu'on regarde. C'est simplement... qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il mange, où il dort, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, les traits écologiques, c'est ceux plutôt qui sont en rapport avec l'habitat au sens large. Les traits biologiques, c'est ceux qui sont en rapport avec la morphologie, la physiologie, le comportement. Il y a des exemples après, c'est-à-dire que, voilà, ça, il faut appuyer plusieurs fois, je pense. Il y en a trois. Donc, exemple de traits écologiques, il y en a encore un. La préférence en matière d'habitat, la distribution spatiale, la sensibilité aux perturbations. Tout ça, c'est codé maintenant dans des bouquins, dans des livres. C'est standardisé, ça a été publié. Donc, ça commence à être utilisé en routine pour traiter justement des aspects un peu plus fonctionnels dans les cours d'eau. Et la suivante, c'est les traits biologiques. Donc, il y en a trois aussi. Je vous ai parlé d'un exemple. C'est les caractéristiques du cycle de vie, la potentialité de résistance et la physio. Donc, vous avez par exemple les modes de reproduction, les modes de respiration. Ici, vous avez effectivement des caractéristiques plutôt de taille, de temps de génération. Donc, tous ces traits sont utilisés, sont combinés maintenant dans les études pour aller typer, faire ce qu'on appelle de la typologie de pression, hein, la typologie de perturbation, pour essayer de décrire derrière des indices qui vont caractériser le système. Donc, l'intérêt de l'évolution de ces méthodes, là, je ne présente que simplement que les mêmes commentaires, mais on fait la même chose avec les diatomées, on fait la même chose avec les macrophytes, on fait la même chose avec les poissons. C'est d'aller compléter effectivement cette information qu'avant on ne savait faire que d'un point de vue taxonomie. C'est d'aller approcher plus précisément les mécanismes écologiques. Et bien sûr, derrière, on essaye d'aborder la discrimination des causes de perturbation. C'est ça l'enjeu un peu de toute l'évolution de ces méthodes. Alors, l'avantage de procéder comme ça, c'est qu'on peut aller maintenant aller comparer au travers des traits, puisqu'on ne regarde plus les espèces, on compare des faunes très différentes qui sont en Hollande, n'importe où, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, voilà. Et ça permet l'intercalation de méthodes et donc derrière, d'aller vraiment plus loin dans la conception des actions et de restauration. Voilà, c'est terminé. Thank you.